suis venue, vraiment, je suis venue au compte, très petite. Je pense que, déjà, j'ai eu un moment quand j'étais petite, je suis d'origine corse arménienne et j'allais chaque été en Corse. Et je me levais tout le temps avant tout le monde. Je voulais toujours voir quand je parlais d'Adrien, le conte que j'ai raconté, que c'est un conte que j'ai écrit et qui parle beaucoup de moi, en fait, de qui je suis. Et quand le jour ouvrait la nuit, tu veux que je sais pas, mais quand je suis durée la tête, je peux plus. Ok. C'était vraiment ce moment, je pense que c'est un moment qui était très important, c'était vraiment toujours en Corse la nature. J'arrivais, on habitait dans une montagne, le vent soufflait hyper fort, il y avait le ravin, donc moi j'avais vraiment peur parce que mon père conduisait hyper vite. Mais j'ouvrais la fenêtre, je laissais le vent souffler dans mes cheveux et puis j'arrivais, quand j'arrivais là, c'était comme la contemplation et c'était comme le silence aussi. Et ces moments de transition justement, entre le jour et la nuit, quand je me réveillais, que personne n'était réveillé, que je voyais le vent en fait comme dessiner les paysages, c'est des paysages qui sont rentrés dans mon cœur. Et je pense que, ouais, c'était vraiment, c'est bizarre cette place, mais c'est quelque chose qui a été très important. Et très tôt, j'ai écrit des poèmes, mais très tôt, on m'a fait publier des poèmes, j'avais 9-10 ans, et en fait, c'est comme si j'écrivais une phrase, et je savais que dans cette phrase, il y avait le silence, il y avait ce silence-là, et je pouvais dire, regarde, dans cette phrase, il y a un poème, et tu viens me dire, mais c'est qu'une phrase, mais moi, je savais qu'il fallait juste déplier ce silence-là. C'est pour ça que j'avais voulu raconter à Adrien, qu'un conte que je ne raconte plus, mais ce conte-là, c'est un conte, c'est ça dont je parlais. De ce silence qui se déplie, en fait. Et je pense que c'était ça, la première source pour moi de création. Avant que j'écrive, j'avais un enregistreur et mes parents avaient la musique de Jean-Michel Jarre. Oh, je mettais la musique de Jean-Michel Jarre et j'inventais des contes. Et j'étais toujours. Ma question, ça a toujours été d'où on vient. Quand par exemple j'avais 7 ans, chaque fois que j'avais de la fièvre, chaque fois que je tombais malade, je me posais toujours la question, mais pourquoi on est sur Terre? Pourquoi on est là? Et il y avait quoi avant? Et donc, je pense que mes premières histoires, ça a été inventer l'origine, en fait. Imaginer pourquoi on est là. Et là même, d'ailleurs, il y a quelques années, j'ai fait un spectacle qui s'appelle Échapper du silence. Et je disais, si tout avait commencé par un silence. Et c'est vraiment... du coup, il y avait cette question qui était toujours présente. Et très concrètement, enfin moi je vois le conte comme un oignon avec, t'as toutes les couches, on a toutes les couches de sens et tout, et on l'épluche pour aller à la racine de l'autre. C'est vraiment, moi j'ai des parents qui sont méditerranéens, ils s'écoutent jamais, ils s'adorent, ils se crient dessus, ils se parlent fort, ça pouvait même aller vraiment loin, et moi j'étais là, non, qu'est-ce que c'est le chemin que je peux trouver pour qu'on puisse se comprendre? C'était des histoires. C'était toujours d'inventer l'histoire qui pouvait faire le chemin pour qu'on puisse se comprendre. Donc pour moi, c'est vraiment l'oignon pour aller au cœur et qu'on enlève toutes les épluchures qu'on a. Et je pense que c'est aussi pour ça que je vous avais parlé de ce que je faisais avec la maison, avec les personnes qui sortaient de prison et qui étaient des fous. Et c'était parce que j'avais appris enfant à trouver le chemin pour aller vers l'autre, en fait. Et le conte m'a énormément aidée. Même à un moment, je me rappelle quand j'avais 18 ans, je suis dans un bus et j'entends deux personnes d'un certain âge qui disent « Oh, les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas possible !» Et du coup, je me dis « Ok, on pourrait se disputer, faire une belle guerre entre nous. » Et je leur ai dit « Est-ce que je peux vous raconter une histoire ?» Je leur ai raconté l'histoire de cet étranger qui rentre dans la ville. Il y a le grand-père, il y a le petit-fils. Comment ils sont les gens dans ton village? Comment ils étaient dans ton village? Ah, c'était horrible et tout. Ça sera pareil ici. Et le lendemain, comment ils étaient, le nouvel étranger, comment ils sont dans ton village? Comment ils étaient dans ton village? Mais ils étaient formidables. Et là, le petit-fils qui dit, comment tu mens, mon grand-père, On ne voit qu'avec les yeux du cœur. Mmh. Et ben après ça, je suis allée prendre un café chez eux. Donc il y avait vraiment, et c'est ça la magie du conte. Et pour moi, ça a été complètement depuis mon enfance présent. Mais je savais pas que ça pouvait être un métier. J'écrivais tout le temps, mais c'était pour moi tellement en moi que. Mais j'écrivais en parlant. Hein. Moi, si je suis dans un café, je parle, on me prend pour une folle. C'est-à-dire que si j'écris, c'est toujours en parlant, j'ai jamais fait. C'était toujours de l'oralité que je captais. Ça n'a jamais été de l'écriture dans ma tête. Quand je voyais les. Ah oui, un autre moment très fort, c'est quand j'ai appris que les étoiles qu'on voyait, elles étaient mortes. C'est quand même incroyable. Quand elles pouvaient être mortes, donc c'est incroyable. Donc du coup, je me suis dit que je voulais être astronaute. Et j'ai vraiment fait des études de sciences. Je suis à l'université, j'ai fait des maths, de la physique et tout. Mais à l'école, c'est ça. C'est que j'arrivais à passer les années, mais on me disait toujours, sois juste une élève. Mais ça, c'était impossible. Après, voilà, donc j'avais aussi mes parents qui me disaient qu'il fallait faire quelque chose de très très sérieux. Donc, ce qui était évident pour moi, c'est comme tellement évident que je me disais, j'en fais. Voilà, c'est là, donc j'ai fait aussi du théâtre. Pareil, les maths, je les faisais faire à l'université, mais je devais rattraper parce que j'arrivais pas à suivre. Pour moi, c'était du social, on rencontre les gens, mais aller à un cours de maths, c'était très aride. Donc je rattrapais, mais ça marchait. J'ai donné des cours de maths. À un moment, j'ai rencontré, je me disais, mais j'ai quand même envie de. Il y a quelqu'un qui m'a, un directeur du département de la musique, qui m'a accepté directement en maîtrise. Et comme je connaissais pas. En fait, moi, je suis rentrée dans l'université, mais sans vouloir rentrer dans les normes. Et comme j'étais en maîtrise directement, et que j'avais pas fait les 3 années, je pouvais être hyper créative dans ma recherche. Et c'était toujours ma quête, je ne faisais pas exprès de le faire, je me suis retrouvée à faire de la recherche sur le cinéma kabyle. Ce qui me touchait en linguistique, c'était, je ne sais pas si vous connaissez, Saussure, qui était connu pour un livre qu'il n'avait jamais écrit, en fait, sur l'arbitraire du signe. Et en fait, lui, ce qu'il cherchait, c'est des anagrammes dans les poésies. Lui, il croyait que chaque fois qu'on écrivait un poème, il y avait comme un mot caché. Hein? Mais ça me faisait penser au silence, parce que je pense que ça me faisait penser à ma petite phrase que j'écrivais, qui était un poème caché. Donc ça m'inspirait, même si je pense que ce n'était pas conscient. Et donc dans le cinéma, quand j'ai travaillé sur le cinéma kabyle, j'ai fait l'hypothèse que tout partait d'un centre, comme Adrien. Et là, j'ai trouvé des mythes. Ça partait. J'ai vraiment réussi à tout ce qui sortait du moule, tout ce qui n'entrait pas dans les modèles inventés, me permettait de retrouver le centre. Et c'est là où j'ai trouvé. Finalement, on m'a dit, moi, je vous aimais parce que vous êtes excentrique, mais vous avez quand même réussi. Moi, je croyais qu'ils croyaient en moi. Mais il me prenait pour une folle. Mais en même temps, c'est abstrait. T'as 15 personnes qui lisent ton travail de recherche. Et c'est pas ce que je voulais. Donc le conte, c'était toujours là pour dire la chose de la manière la plus simple possible et la chose la plus profonde que tu veux dire. Donc j'ai fait une formation avec Gilles Bisouem, parce que j'ai découvert que le conte pouvait être un métier, je me dis mais c'est pas possible. Donc j'ai fait ça, j'étais tout le temps, il faut faire quelque chose de très sérieux dans la vie, et je me suis pas autorisée à être conteuse. C'est vraiment petit à petit, au Québec, quand j'ai inventé une histoire et qu'on me disait de la raconter ailleurs, je suis devenue conteuse grâce en fait aux autres conteurs qui me programmaient en fait. Ça a été vraiment pas moi qui me suis dit je vais prendre cette place-là. Parce que j'ai aussi un truc, c'est quand on me prend trop sérieux, je vais dire exactement la chose pour me ridiculiser parce que j'ai pas envie qu'on me prenne trop sérieux. J'ai vraiment un côté Colombo, là, j'aime bien. Donc c'était comme ça que la meilleure manière de devenir conteuse, c'était ça, dans la générosité, mais ça a toujours été comme une évidence en fait pour moi. ça a toujours été présent. Il y a aussi l'importance du vent, ouais, du vent que j'ai. Tous mes personnages, en fait, le vent, c'est un élément qui est extrêmement important pour moi dans mes histoires. Ouais. ça pourrait être ça. Je pense, je suis sûre que j'ai pas dit les trois quarts des choses que je voulais dire, mais c'est ça. C'était. Ouais. Ah oui, aussi pour les contes que j'ai deux. Les contes que je vais créer, ça va être des contes qui parlent de une image de l'intérieur. Enfin, je prends l'image du coquillage. Quand on écoute un coquillage, on a l'impression qu'on écoute la mer, mais en fait c'est notre sang qu'on entend. Non, mais c'est vrai, c'est le rythme. Ouais, c'est ça. Et pour moi, c'est ça aussi le conte, c'est de. Ouais.
Prêt.
Ouais.
C'est notre récolteuse d'images. C'est notre récolteuse d'images. Chaque fois que tu lèves la main, il faut la noter.
Il y avait quelque chose aussi quand tu avais parlé, Gigi, de la religion. Moi, ma mère, elle est tout d'un coup très croyante. Donc, il fallait tout le temps aller à l'église. Et moi, j'adorais le moment où on faisait la paix du Christ. Mais j'adorais. Et je cherchais toujours le monsieur le plus seul. Je cherchais. Ah, parfois, il me disait. Mais quand j'arrivais à ce qu'il serre la main, j'avais gagné mon église. Moi, j'avais gagné ma messe. Et pour moi, c'était mon objectif. Alors, j'adorais y aller.
C'est un moment, je n'ai pas connu ça, où on va.
Ah, oui, c'est ça, tu vas serrer la main, tu dis la paix du Christ.
La paix du Christ soit avec vous,
oui. Et
on se reconnaît.
Ah, j'adore.
Ah, oui, je ne sais pas.
Ouais.
Et il y en a qui refusent.
Ah oui, mais oui, tu vois la personne la plus enfermée. Mais moi, j'y retournais. Et c'était pareil dans la rue, quand j'habitais à Paris, il y avait une femme qui vendait le macadam. Elle disait macadam, macadam. Alors je disais bonjour, elle ne répondait jamais. Macadam. Alors je lui offre un croissant, ou je lui offre un petit truc et tout. Et à un moment, j'étais pressée, j'avais oublié de lui dire bonjour. Et elle m'a regardée, et elle m'a dit bonjour. Et moi, j'étais, voilà. Et je lui dis, elle s'en fout, enfin, c'est bon, je me dépêche. Et puis, en fait, finalement, voilà. Donc il y a quelque chose pour moi qui était important et qui, par rapport justement à la religion, moi, je me dis, si ça parle à mon âme, à mon cœur, c'est juste. C'est juste. Mais mais tout ce côté d'isoler ou de dire j'ai la vérité, ça je suis allergique à ça. Parce que cette phrase que je partageais tout à l'heure, elle est hyper importante pour moi. Donc pour moi, juger les bons, les mauvais, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Mais parce que justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher la personne qui va s'isoler. Donc, il y a vraiment ça. Donc, ça m'a fait penser à ça. Et c'est très bien en ce moment. Et moi, j'aimais aussi la communion. Je trouvais ça super. Et la confession, non, jusqu'au moment où, un jour, c'était à l'oratoire Saint-Joseph. J'étais enceinte. Je me suis dit, je vais me confesser. Ça fait 10 ans que je ne l'ai pas fait. Je vais voir il y avait une grande queue. Je vais voir un monsieur. Et il me parle comme un automate. Il me parle comme un automate. Vous allez réciter, je sais pas quoi et tout. Il m'a même pas écouté, il me dit que. Et moi, je me suis énervée contre lui. Je lui ai dit, vous osez me parler comme ça alors que vous êtes allé vous confesser avant de confesser les autres. Et je suis partie. Et j'arrivais plus à trouver ma sortie de l'oratoire Saint-Joseph. Depuis, je déteste aller à l'oratoire Saint-Joseph. Mais il y avait vraiment. Et depuis, je suis jamais allée retourner là. Tu m'as traumatisée. Mais sinon, non, j'aimais ça. J'aimais bien ce petit stress avant.
Est-ce que ça va passer cette
fois? Mais non, mais d'ouvrir en fait, voilà. Et puis moi, pour moi, les gens les plus jugeants, les gens les plus jugeants, c'est ceux qui sont pas capables de se regarder à l'intérieur. Donc quelqu'un qui me juge, je vais te regarder toi-même. Au revoir. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est la réalité. Si quelqu'un, si t'es vulnérable et que l'on juge, c'est son problème. Mais après, t'appelles le chien pour qu'il revienne, tu mets ton écho, tu mets ta carapace. Voilà.
Est-ce que tu veux bien reprendre ce que tu disais sur le silence qu'on déplie?
Oui.
Tu vois, parce que je pense que ça pourra vraiment intéresser Patrick, et ses oreilles étaient prises par autre chose à ce moment-là.
Oui, je suis désolé, j'avais un rendez-vous avec mon éditeur.
Ah, tu n'étais pas là?
Au début, non. Je suis venu juste en cours. Non, j'avais un rendez-vous à 45 et je ne pouvais pas.
Tu m'éditais?
Il ne pouvait pas, il voulait absolument me parler aujourd'hui.
Alors, je vais radoter.
Merci.
Mais c'est du bon radotage, ça.
Je sais que quand.
Tu pourrais tout en faire.
Mais quand j'étais enfant, tu sais, j'ai un moment fort que je vivais, c'est quand j'étais. J'allais chaque été en Corse, puis je me réveillais toujours avant tout le monde. Et j'écoutais, tu sais, le silence, et je voyais le jour s'ouvrir. Pour moi, c'était comme un début du monde à chaque fois. Mmh. C'est comme si j'assistais au début du monde. Et que c'est comme si ce paysage-là était rentré à l'intérieur de moi. Et d'ailleurs, même quand je rentrais en ville, je retournais dans cet endroit-là quand j'avais envie. Et aussi, il y avait le bruit. Mes parents sont très expressifs. Et il y avait toujours ce silence-là qui était là. Et je me suis mise à écrire de la poésie pour faire vivre ce silence-là. Mmh. Et que parfois, je pouvais écrire une phrase. Je savais que dans cette phrase, il y avait le poème qui était à déplier, tu sais, et que c'est toujours cette idée d'un cœur qui se déplie, tu sais, et c'est là où pour moi, on est juste à la frontière de la folie. C'est parce qu'on va juste être capable de déplier ce truc qu'on sent et d'être capable de lui donner une structure, en fait. Mais c'est tout, mais c'était ça. Mmh. C'était un silence qui se déplie et c'est ça qui fait le poème. Ouais.
Et tu parlais d'Adrien, du coup, la faisait.
Adrien, c'est une histoire. C'est une histoire que j'ai écrite, mais qui parle c'est l'histoire la plus proche de moi. Et c'est bizarre parce que j'ai des petits garçons qui pour moi c'est un yen, en fait, ce petit garçon. Mais c'est quand je me suis rendu compte, j'avais beaucoup d'histoires de yen que j'avais écrites. Et en fait, quand je mettais un petit garçon, c'est souvent un yen. Parce que c'est ni un garçon ni une fille en réalité. Mais c'est vrai que je me suis mise à écrire des histoires de petits garçons, alors que je me sens vraiment très femme, mais très fille, je me sentais vraiment. Mais c'est quand c'était des petits yams que je pense que j'ai créé Et puis, à un moment, je me suis perdue socialement, j'étais trop sociable, le silence n'existait plus. C'est le petit orgueil d'Adrien. Et à chaque fois, quand tu quittes ça, tu perds tout, tu peux plus. Tu peux plus créer vraiment. Et pour moi, ça parlait de ça hier, ce que j'avais raconté. Non. Vraiment.
Merci d'avoir répondu.
Et je me suis rendu compte que quoi que je fassais, quoi que je fasse, c'était de ça que je parlais, en fait. Et c'est intéressant parce que tu peux le trouver même dans quand on dit. Si tu vas aux sources des textes, même Dieu, celui qui n'a pas de nom, ça parle de ça, mais dans plein de traditions. En fait, ce silence-là, mais après on lui met des couches, on le définit, on le caricature. Et il y a aussi, quand j'étais en recherche, je me bouchais les oreilles parce que j'avais peur d'être contaminée par l'intellectualisme. J'avais peur, je me bouchais les oreilles. Et un jour, je me suis retrouvée à un colloque et tout le monde lisait leur texte. Et c'est vraiment, moi je suis mais allez, on improvise et tout. Et on s'est mis, on a eu une journée où tout le monde a parlé à l'oral. Et c'était ça, moi j'étais sur un. Je me sentais très imposteur, moi, quand j'étais dans le milieu universitaire. Parce que je fuyais. Parfois on me disait, qu'est-ce que tu connais le sujet? Mais non, j'ai lu deux pages, non, j'ai peur de trop rentrer dedans. J'avais vraiment quelque chose qui. Ouais. Il y avait ça. Et il y a aussi mon grand-père qui était très important. Mon grand-père, lui, il était du Jura. Mon grand-père. Oui, mon grand-père, en fait, lui, à un moment, en fait, c'est très joyeux, mais il s'est mis à perdre la mémoire. Et je ne pouvais pas, pour être avec lui, je ne pouvais être que dans ce silence vivant, en fait, dans cette présence. Je ne pouvais pas me mettre à parler de ce que j'allais faire, mais c'est des larmes belles. Hein. Mais parce que ça a été quelqu'un de très important pour moi. Ouais. Et donc le grand-père, Adrien.
Oui.
Ouais. J'ai pas fait exprès. Et j'ai réalisé que Karine, mon père voulait m'appeler Diane. On estimait Karine et Diaz, mais Adrien, c'est très bizarre. Mais ça, c'est entre nous parce que c'est vraiment bizarre. Mais oui, oui, c'est très. On peut pas le savoir quand on voit Adrien, ouais, c'est vraiment très proche d'une partie de moi. Ouais. Ah ouais.
Et tu disais tout à l'heure que tous les contes que tu vas créer, c'est vont être de ce même moule de que le coquillage,
ouais.
Qui dans lequel on peut entendre son propre rythme sanguin.
Ouais, de mettre à l'extérieur quelque chose qui est à l'intérieur. C'est comme oui. L'histoire des bonnets que j'avais mise pour le coller. Ouais.
Ouais, c'est ça, mais je reprenais parce que je dis, tous les contes que je vais créer.
Ah, j'ai dit, oui, mais parce que je pense que c'est...
Tous les contes que je vais faire, c'est ça que t'as dit.
C'est ah ouais, bien. Mais c'est parce que c'est toujours de regarder à l'intérieur et de ouais. Sortir d'une manière simple. Ouais. Mais ça part toujours d'une forme d'introspection quand même, de voir ce qui se passe. Ouais. Mais là, c'était vraiment très concret, vraiment, je donnais l'exemple des bonnets, puisque c'est un conte que j'ai mis dans le Yann.
Oui.
Voilà, les bonnets, donc quelqu'un qui porte un masque, qui change toujours de couleur en fonction de son humeur, bah, c'est... ça vient de nous, là. Mmh. Mais c'est totalement extériorisé, jusqu'au moment où il y a Yann qui dévisage. Donc, c'est ça. Ouais. Mais en fond, c'est vraiment... En fait, mon désir, c'est qu'on se rencontre sans bonnet, tous. Et que ça peut être même une infime seconde, bah, la vie, elle est réussie. C'est pour moi, c'est tous ces moments de trop. Puis ces moments, et avec mon grand-père, j'en avais beaucoup de moments où c'est lui qui m'enlevait tous mes bonnets, parce que je ne pouvais pas en porter avec lui pour le rencontrer. Et moi, c'est mon objectif. Et pour moi, ça doit servir à ça, le conte. De déshabiller nos épluchures d'oignons, d'aller vers le cœur. Ouais.
Même si ça fait pleurer.
Mais oui.
Ouais, bah c'est plus. Voilà, c'est
ça. Tu sais, les Amérindiens, quand il y a des larmes, comme ça, les Amérindiens remercient après. Mmh. Et merci d'avoir versé ton eau. C'est beau.
Ouais. Moi, je suis une pleureuse.
Bah oui, très bien. Et c'est la force et la délicatesse du conte, hein. C'est vraiment d'aller aux endroits où ça remue, quoi. Mmh. Où ça vit, où ça,
ouais.
Où ça naît, où ça...
Et c'est vrai que pour moi, il faut, si je prends du répertoire traditionnel, il faut vraiment qu'il me rentre.
Oui, c'est ça.
À un moment, j'avais un festival à Sherbrooke et on devait faire un spectacle sur les contes merveilleux. Ben, j'ai pris ma voiture, j'avais pas encore mon compte. Et c'est sur la voiture que le compte il est rentré. Mais sinon, j'avais confiance, je savais qu'il allait arriver, mais c'était dans 3 jours le spectacle. Mais on a sur la route, mais il faut que ce soit une rencontre. Ouais.
Et c'était quoi, tu l'as, tu te rappelles?
C'est le prince serpent. Ouais. Et ça a été vraiment sur la transmission de la mère que j'ai fait ça. J'ai mis que c'était la colère, il y avait la colère, la tristesse, la peur. Et c'était des couches sur l'enfant. Et ouais.
ouais.
Est-ce que vous avez des questions?
Ou bien on pourrait faire, vous avez des réponses?
C'est ça, c'est...
C'est vrai, s'il vous plaît. Vous avez une réponse?
On peut écrire le silence.
marqué. Putain, je pensais à Chamboiseau.
Ah ouais.
Qui dit que la narration est une chose qui peut nous sauver.
Mmh.
Et ton compagnon travaille beaucoup sur Chamboiseau.
Mmh.
Et donc, moi, c'est un auteur qui me touche beaucoup. Et j'entends cette question de se relier grâce au conte. Mais lui, il va très loin, il parle de l'écriture, il dit que on ne sait pas ce qui nous attend avec l'écriture, que c'est l'infini de soi, c'est l'inconnu de soi. Quand on écrit un poème, donc il y a le silence et qui amène quelque chose qui n'a pas été...
Franck m'a séduit avec les phrases de Chamoiseau. Il m'a envoyé des phrases de Chamoiseau, ça m'a beaucoup touché.
Ah oui.
Chamoiseau,
c'est que ça arrête de la séduire.
Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais il parle beaucoup du silence aussi.
Chamoiseau, il dit que les esclaves dans les plantations, ils n'avaient pas le droit de parler. Seulement la nuit pour veiller un mort. Donc quand il y en avait un, quelqu'un mourait, là ils avaient le droit à la parole, à la danse et tout ça, et qu'il y avait des conteurs, peut-être pas titrés conteurs, mais et ils se lançaient dans les paroles qui venaient, mais c'était presque de la transe, et ils parlaient au nom des ancêtres, quoi. Et c'est très fort, il faut lire les bouquins de Chamoiseau, notamment sur le panier, là, le panier ça s'appelle, sur cette question de la place du conteur, qui à un moment donné, part du silence.
Un jour, ça me fait penser, je comptais en Martinique, et je comptais dans une maison de personnes âgées, mais qui avaient vraiment beaucoup perdu la mémoire. Et j'avais proposé à Franck de m'accompagner parce qu'il était là aussi, et là donc on a fait notre spectacle, et après il y a l'infirmier martiniquais qui est arrivé et il nous a donné une grande leçon de conteur. Avec son silence habité, il a parlé à l'âme de chaque personne qui avait comme perdu la mémoire. Est-ce que tu te souviens la première fois que tu es tombé amoureux? Mais c'était vraiment cette parole qui ravivait la mémoire, et ça me fait penser à ce que tu dis. Et je me suis dit, ok, là c'est vraiment la plus belle claque de conteur que j'ai eue de la part de quelqu'un qui n'était pas conteur officiellement, mais là, il y était. Et c'est pour moi cette parole qui ravive la mémoire.
Et parce que ça m'amène à une autre réflexion. J'ai entendu dire, par exemple, chez les gitans, quand un vieux bonhomme va pas tarder à partir, si les violonistes, ils donnent son violon à un enfant qui naît, ou qui va naître, en disant « ce sera toi qui reprendras mon violon ». J'avais entendu dire ça. Et donc, je me dis, est-ce qu'on est prédestiné? Est-ce qu'on nous a, dans nos ancêtres, dit « ce sera toi qui sera la personne de la parole, ou la personne de la musique ou... ?» Il y a quelque chose de mystérieux à travers tout ça. C'est peut-être pas vrai.
Je n'ai pas entendu parler de ça.
Mais bon, la nation, certains
ont du temps à l'ouest. Mais en même temps, je pense que tu as raison. Là, bon, c'est un violon, peu importe, mais je pense qu'on est prédestiné à quelque chose dans la lignée des ancêtres, parce qu'on le sent. Et quand tout est ajusté, quand on sait pourquoi on est là, enfin, quand on fait confiance à ce sentiment diffus, on sait qu'on a la bonne place. Et tant qu'on n'a pas trouvé cette bonne place-là, on est en recherche. Et on se sent, même pas sur un fil, on se sent entre deux routes, deux chemins, et on ne sait pas trop où regarder, où aller. Et quand tout s'aligne, si on s'écoute vraiment au plus profond, et si on enlève tout ce qu'on a, les autres attendent de nous, on peut trouver ce chemin-là. Parce qu'il peut y avoir aussi Toi, le patriarche, il va dire « Ah, mais lui, il sera mon successeur, je ne sais pas quoi. » Mais si ce n'est pas donné avec l'âme, avec le fond du cœur, c'est un poids. Alors que si la lignée donne ça, ouvre un chemin en disant « Ce sera, là, on va trouver notre chemin et ça va résonner en nous. »
Puis si c'est donné avec cœur, ça procède aussi de l'intuition.
Oui, voilà, ouais.
Plus que de...
Oui, de l'ordre.
De l'ordre, ouais. Moi, j'ai vraiment, c'est pas la lignée, j'ai vraiment le sentiment d'appartenir à une confrérie. Une confrérie de conteuses, de conteurs, non seulement ici, mais de ceux qui sont du passé. Et depuis que j'ai lu un bouquin qui s'appelait Les griots de la parole, et qui imagine des griots sur les autres planètes, j'ai encore élargi le cercle. Et je me plais à ça. Ça permet aussi d'être en reliance avec tout ce qui procède de la guérison du monde par le verbe. Quoi.
Mais qui parmi nous n'a jamais raconté au vent ou à une feuille pour que nos paroles s'envolent et aillent faire le tour? Je veux dire, on a tous fait ça. Une musique ou un poème ou quelque chose, hein. Voilà, je l'offre à l'univers, à tout, pour que ça se promène.
Ne serait-ce qu'un vœu sur les plantes qui font des petits parapluies, là, je ne sais pas si vous voyez. Quand tu souffles dessus, il y a plein de trucs qui s'envolent. Des pissenlits. Ouais. Donc il y a des plus bons, quoi. Tu souffles dessus et ça s'envole dans le vent.
Puis il y a aussi des choses qui nous parviennent et puis que les uns, on peut les choper en même temps.
C'est ça. Nous, on fait partie d'un grand tout.
Oui.
On n'est pas non plus les seuls et uniques.
Il y a une expression chez les jeunes, c'est il m'a mis un vent.
C'est pas la même chose, c'est pareil.
Il m'a mis un vent.
Il ne
dit
plus
que
ça.
Ouais. Il paraît que c'est déjà un gars. L'autre jour, je parlais comme ça à ma fille, elle m'a dit, mais tu sais, on ne parle plus comme ça. J'ai dit, moi, je continue.
Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est être dans le vent, c'est le destin d'une feuille morte.
Ah.
Mais c'est pas le même vent dont on parle. On s'entend.